qui nous écoutent, parce que, tu sais, je veux pas tomber dans une histoire personnelle, mais encore moi, récemment, il y a quelqu'un autour de moi qui s'est retrouvé à l'hôpital, bon, il a sauvé la vie. C'est quoi les impacts?
Bien, les impacts sont énormes. Puis, tu sais, je dis ça parce qu'on est inquiet, justement, puis qu'on espère qu'il va y avoir des changements, puis qu'il va y avoir des changements de position de la part du ministère d'ici au 19 mai encore. Moi, je pense qu'il y a encore le temps de réagir puis d'améliorer la situation. Mais si c'est appliqué tel qu'on le prédit, on parle d'à peu près la capacité hospitalière, nos lits qui sont diminués de 30 %. On parle de 20 lits à Baie-Comeau, 20 lits à Sept-Îles qui vont être fermés du jour au lendemain. Ces patients-là vont être transférés à Québec. Donc, on parle de des nord-côtiers qui habitent ici, qui sont hospitalisés puis qui se font dire « On aurait pu t'hospitaliser à Baie-Comeau il y a deux semaines, mais là, on n'a plus le personnel, fait qu'on va t'envoyer en avion à Québec.
Ouais. »
tout ça est très compliqué. La logistique de ça est compliquée.
C'est coûteux.
C'est extrêmement coûteux, des voyages, des transferts à l'extérieur. Puis en plus, les centres qui vont recevoir ces patients-là fonctionnent déjà aussi avec une capacité qui est limitée. Puis eux autres n'ont pas non plus nécessairement la capacité d'accueil pour tous les accueillir. Puis en plus, c'est une logistique incroyable parce qu'on est loin des centres de référence. Donc là, c'est des transferts par avion, c'est des transferts par ambulance, mais qui durent plusieurs heures. Il faut trouver du personnel pour accompagner ces patients-là. Il faut trouver des ambulances puis des avions pour mobiliser.
C'est de la paperasse aussi.
C'est énormément de paperasse pour nous parce qu'à toutes les fois, il faut parler avec les centres de référence, parler avec les médecins qui vont les accepter, remplir les formulaires. Fait qu'on va libérer du personnel médical pour être capable de faire ce travail-là qui va être énorme, puis qui, honnêtement, pourrait être évité. Puis
ben oui.
Parce que puis c'est ça qui dans la situation actuelle aussi est déplorable, c'est que c'est tu sais quand le COVID est arrivé, quand on s'est adapté à d'autres crises qu'on a vécues, on le savait qu'on n'avait pas le choix puis que c'était juste une réalité à laquelle on devait s'adapter. Mais là il y a encore moyen de faire autrement. Tu sais au niveau de la main-d'œuvre indépendante, je pense que cette application là qui va peut-être être faite en ville devrait pas s'appliquer à la Côte-Nord et à l'Abitibi présentement. Faut laisser le temps pour avoir des incitatifs puis recruter la main-d'œuvre qui va venir remplacer cette main-d'œuvre indépendante là. Puis c'est ça qui est inquiétant, c'est ça qui est dangereux. C'est la manière que c'est mis en place.
Oui, parce que, tu sais, on a l'agence de santé aussi, qu'on se demande si leur rôle là-dedans, c'est au niveau du recrutement. On se dit, eux autres, ils font avec ce qu'ils ont. Là, vous avez l'impression qu'ils n'ont pas tout ce qu'il faut dans les mains présentement pour vraiment régler le problème de main-d'œuvre permanente, là. C'est-à-dire, tu sais, engagée, là.
Il y a des demandes, tu sais, il y a des discussions comme ça qui ont lieu depuis déjà plusieurs années. Le 6 Côte-Nord, honnêtement, tu sais, j'ai beaucoup de respect pour le travail qu'ils font, puis je pense qu'ils font tout leur possible en ce moment pour offrir les meilleurs soins à la population dans le contexte. Puis cette situation-là, en tant que telle, c'est pas des coupures qu'eux ont choisies, c'est des coupures qui leur sont imposées par des nouveaux règlements qui ont été votés par le ministère.
On l'a bien compris dans le communiqué, là.
Puis c'est vraiment, tu sais, c'est pour ça, je pense que le 6 essaie de faire du mieux qu'il peut avec les moyens puis les cartes qui sont devant eux, dans le fond. Puis en tant que tel, je pense que si on veut que la situation s'améliore sur la Côte-Nord, on va devoir mettre en place des incitatifs pour qu'un travailleur qui va terminer sa formation à Montréal ou à Québec, il faut qu'il y ait des incitatifs à venir travailler en région éloignée. Présentement, si tu donnes les mêmes conditions pour travailler à 8 heures de route ou rester chez toi, on ne réussira pas à recruter ces gens-là. C'est pour ça que présentement, la seule façon qu'on réussit à les avoir, c'est à travers les agences puis la main-d'œuvre indépendante.
Okay.
Puis ça, nous autres aussi, on veut que cette situation-là s'améliore, mais ça va prendre du travail puis des conditions qui vont nous permettre d'arriver là.
Sachant tout ça, pour les gens qui sont dans le système de la santé, parce qu'on a reçu un communiqué du CISNEC qui dit que l'ambiance de travail, présentement, c'est très difficile. Est-ce que vous êtes aussi témoin de ça? Parce que, bon, en tout cas, moi, je suis juste un citoyen, un usager, puis je trouve ça décourageant. Si j'étais à l'intérieur du système, je pense que je serais pas très content en ce moment.
Bien, en tant que tel, on travaille dans un réseau qui est déjà épuisé. On travaille dans un réseau, tu sais, où les travailleurs du CIS qui tiennent le fort, qui sont encore là, qui continuent à faire leur travail tous les jours, vivent encore du temps supplémentaire, vivent encore des conditions de débordement chronique. Honnêtement, on vit dans un système où est-ce qu'on a des employés, tu sais, qui donnent déjà beaucoup d'eux-mêmes.
Ouais.
Puis de se faire imposer une crise comme ça qui va chambarder leurs prochaines semaines, qui va changer leur façon de travailler, qui va mettre mettre un stress supplémentaire puis qui va probablement provoquer encore plus de temps supplémentaire obligatoire qu'on essaye justement d'éviter. Moi, je pense que je comprends les gens d'être inquiets, je comprends les travailleurs d'être épuisés, puis je les comprends aussi à quelque part d'être un peu en colère en ce moment parce que c'est quelque chose qui était peut-être évitable, peut-être qu'on pouvait le faire autrement. Puis à quelque part, eux autres, c'est déjà des gens qui donnent beaucoup d'eux-mêmes pour justement donner des soins à la population dans des contextes de vieillissement de la population, dans des contextes de pénurie de main-d'œuvre. Fait qu'ils méritaient pas de se faire imposer ça en plus.
Parce que là, vous représentez énormément de corps de métier, là. Vous êtes là, vous représentez médecins généralistes, mais il y a des pharmaciens, il y a beaucoup de gens là, que vous représentez. C'est plus d'une vingtaine de personnes qui ont signé la lettre hier. Tous des chefs de département, tous des gens qui connaissent bien le réseau et qui disent « Attention ce qui s'en vient, si vous continuez, vous gardez le cap. » On s'en va dans le mur.
Écoute, la discussion n'a pas été longue parce que quand on s'est rencontrés, nous autres, lundi soir, c'était unanime. Puis les gens étaient inquiets puis étaient mobilisés parce qu'on a bien saisi l'ampleur de ce qui s'en vient si c'est appliqué tel quel. L'hôpital de Baie-Comeau, juste pour vous donner un exemple, parce que c'est là-bas que je travaille, là, dans le fond, on est supposé rouler à 10 civières, mais la réalité, là, c'est que d'habitude, on fonctionne souvent à 15, souvent 20, puis des fois, on déborde jusqu'à 25, 28 civières. Ouais. Fait que ça, c'est une journée normale. Des fois, moi, j'arrive à l'urgence, il y a 20 civières qui sont occupées. Puis pour nous, c'est une journée avec laquelle on jongle d'habitude. Là, on nous parle de fermer des fois, on va tellement être en pénurie de personnel la semaine prochaine qu'on nous parle de fermer des fois à 5 civières, 5 ou 10 civières dépendamment des journées. Mais moi, 5 civières, des fois, une mauvaise journée, là, on peut remplir ça en une heure. Puis des fois, il y a des patients là-dedans qui sont gravement malades puis qu'on peut pas juste transférer en avion en une heure. Il faut attendre que l'avion soit disponible. Fait que si nos civières sont complètement remplies, qu'on n'a pas de capacité de débordement puis qu'on peut pas les évacuer rapidement, ces patients-là, c'est ça notre inquiétude. C'est pour ça qu'on veut essayer de trouver une sortie de crise.
Ouais. Là, le ministre a dit aujourd'hui qu'il fallait garder le cap. Et lui, il veut pas reculer. C'est pas le temps de reculer au moment où on se parle. Moi, je peux rassurer, comme citoyen, comme usager, c'est quoi la suite?
Bien, on se prépare. On est en train de se préparer. En tout cas, je peux parler dans le fond pour l'équipe médicale. Ouais. On est déjà mobilisé. On est déjà en train d'essayer de réorganiser les soins pour faire face à ce qui s'en vient. Puis on va être présent le 19, puis on va quand même essayer de donner les meilleurs soins possibles dans les circonstances. Puis on va réorganiser nos listes de garde puis nos équipes en conséquence pour avoir du monde disponible pour être capable d'organiser cette logistique-là, dans le fond, de transfert que ça comporte. Puis être capable aussi de donner le maximum de soins en dehors de l'hôpital pour pas vivre ce débordement-là qui nous inquiète. Mais comme je l'ai dit en début d'entrevue, je vois pas encore d'éléments qui sont sortis dans la presse ou de communiqués qui est vraiment venu me rassurer.
Bon, on va suivre ça de proche. Merci. Merci de prendre la parole, puis merci de prendre le temps aujourd'hui là, de nous jaser. Puis vous n'êtes pas seul là-dedans, je comprends. Il y a beaucoup de gens qui sont avec vous. Je pense qu'une grosse partie de la population aussi est avec vous parce que, tu sais, on dit souvent que le problème, c'est l'accessibilité là, en santé. Là. Moi, j'ai passé par le système, je connais beaucoup de gens. Aussitôt qu'on a accès au système, on a le traitement royal. Là. On est vraiment bien servi. Ça fait que c'est ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que l'accessibilité va être encore plus réduite.
Bien, je pense que ce qu'on voulait, c'est informer la population. Ouais. Parce qu'ultimement, il faut que les Nord-Côtiers soient conscients que si ces mesures-là sont implantées de la manière que ça nous a été présenté, le réseau ne sera pas fonctionnel. Puis surtout, les patients vont devoir s'exiler souvent pour recevoir des soins de qualité. Puis on n'est pas à côté de Québec-Montréal. Là. C'est des distances impressionnantes. Fait que dans le fond, c'est pour ça qu'on pense qu'il y a encore moyen de faire mieux que ça. Puis il est encore temps de...
Oui, ben c'est ça. Il n'est pas trop tard encore, comme vous dites. Il faut essayer de raisonner le ministre qui semble avoir la tête dure pas mal. Merci beaucoup, Dr. Louis-Charles Moreau. Pour Baie-Comeau, vous êtes le chef du département. C'est très apprécié. Merci.
Merci de m'avoir écouté.